La deuxième fois qu'elle les retrouve au café, elle leur réexplique son projet. Raconter une histoire d'amour en commençant par la fin, la vraie fin, c'est-à-dire bien après la rupture, plusieurs années après. Ça ne s'est pas déjà fait? Risque Pierre. Si, mais faisons comme si nous ne le savions pas, répond-elle. Soyons les premiers à le faire comme nous allons le faire. Claire parle avec ce ton d'autorité qui fait sa notoriété dans le monde entier, et que moins que personne, ces deux-là n'osent remettre en question. Comment? Le temps qu'ils soient l'un en face de l'autre, puis qu'ils ne le soient plus, l'air, les gestes et les mots filent si vite le long des quatre côtés que l'espace pourrait se replier d'un seul coup, chaque côté se rabattre sur l'autre pour qu'on puisse ranger la scène. Dire c'est tout, hop, fini, terminé, cut. Comme on a sorti la scène, on la range. Faisons-en une scène pliable, un truc du genre clic-clac. Ce sera d'ailleurs le titre de mon film.
Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
C'est non seulement le titre du film de votre héroïne, Clic-Clac, mais c'est aussi le titre du livre que vous avez signé chez POL et dont l'héroïne est une cinéaste renommée qui s'apprête donc à tourner son 10e film avec un projet clair, on l'a entendu, c'est raconter une histoire d'amour en commençant par la fin, la vraie fin, c'est-à-dire bien après la rupture, plusieurs années après. Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Commencer par la fin.
Oui, cette drôle d'idée, c'est que en fait, j'ai repéré grâce au cinéma qu'il y avait une scène que tout le monde vivait plus ou moins et qui n'avait pas de nom, c'est-à-dire une scène qui n'est pas vraiment une scène de rupture, qui est la scène en fait qui arrive bien des années après la rupture et qui fait se retrouver des amants qui se sont follement aimés, mais sans que l'amour ne redémarre. Et donc c'est une scène un peu intermédiaire, hybride et encore une fois sans nom, qui est l'occasion de regarder l'histoire depuis un autre point, avec bien des années qui se sont passées, et de voir en fait ce qui se passe. C'est-à-dire à la fois il y a de l'amour vivace, et en même temps il y a de l'amour impossible, il y a quelque chose qui redémarre, qui peut se réenflammer quelques instants, mais qui ne redonnera rien. Et donc c'était pour observer cette situation que Claire Gantz, mon héroïne, a voulu faire ce film.
Elle le fait avec deux acteurs, Pierre et Marie, qui sont censés donc jouer cette scène, puisque tout part de cette scène que Claire considère comme l'arc électrique de son film. Mais c'est pas si simple à jouer comme scène. Les deux acteurs, ils n'y arrivent pas à la jouer. Alors, ils en parlent, ils discutent entre eux, ils discutent avec la metteur en scène, mais c'est très difficile pour eux. Ils ne comprennent pas bien le sens de cette scène et surtout ce que veut faire cette metteuse en scène.
Oui, elle a beau leur expliquer, ils n'y arrivent pas. Il y a deux difficultés en fait dans leur façon de jouer. Il y a d'abord la vitesse qu'elle leur demande. Elle leur demande d'aller très très vite, donc de déplier et de replier la scène aussitôt.
Clic-clac, cloc-clic, on n'en
clic-clac,
parle plus.
exactement. Et cette vitesse-là d'exécution leur est difficile. Ils ont beau accélérer leurs mouvements, leurs gestes, leur vivacité, ça ne marche pas. Et l'autre difficulté, c'est qu'elle demande à l'héroïne de prononcer une phrase qui est « je ne veux pas te voir » et qui est une phrase qui a l'air d'être encore pleine de ressentiment. Donc les acteurs ne comprennent pas comment, avec tout ce temps passé, il y a encore ce ressentiment, c'est-à-dire la vivacité d'un amour sans doute blessé. Et pour cette raison, il y a entre eux pas mal de discussions et de désaccords et donc une manière de considérer cette scène impossible.
Une scène impossible entre justement dans l'opposition entre je ne veux plus te voir ou je ne veux pas te voir d'un côté et de l'autre côté, c'est l'homme qu'elle a attendu toute sa vie ou qu'elle pensait attendre toute sa vie. Donc une débauche de sentimentalité d'un côté et puis quelque chose qui effectivement qui claque de l'autre, Nathalie Azoulay. Et pour cela, la metteur en scène, à un moment, puisqu'elle n'y arrive vraiment pas à faire comprendre aux acteurs ce qu'elle veut, à un moment, elle se met à parler d'un film, un film qui n'est pas d'elle, hein, même si c'est son 10e à elle. C'est quelqu'un de très reconnu, hein, Claire Gantz, dans le monde du cinéma et par le public. Mais elle se met à parler d'un film qui a inspiré en fait ce qu'elle veut faire, un film que Claire a dû voir 35 fois et qui lui rappelle sa mère qu'elle vient de perdre. Ce film, il existe réellement. On en écoute un extrait.
Toujours mariée?
Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais à New York?
Eh bien, j'ai écrit un show pour la télévision.
Vraiment?
Ah, j'en ai appris des choses. Tout se passe à une telle vitesse. On tourne tout en un jour, en direct, sur l'antenne. Tout le monde se précipite de tous les côtés dans une panique permanente. Tu te rappelles comment c'était la radio?
Oui.
Eh bien, c'est la même chose, avec en plus des caméras, Et le délire, ce qui peut être dingue, ça ferait un grand roman comique.
Ça a l'air formidable, Abel. Vraiment.
Votre taxi est là, monsieur.
Dis donc, je suis très très en retard. Veux-tu m'appeler pour prendre un verre, je t'en prie. Nous sommes les seuls David X. Cohen dans l'annuaire. Ravi de cette rencontre.
Le X signifie ?
Les seuls David X. Cohen dans l'annuaire. Bonsoir, monsieur. Désolée d'être en retard. Comment ça marche ?
Oh, merveilleusement. Attends, j'ai 122 signatures.
122 signatures ? Oui. À propos, Irène, a-t-on de ses nouvelles ?
Je ne jette jamais l'éponge, hein.
Seulement quand j'y suis absolument forcée. Mais je perds avec le sourire.
Mieux que moi.
C'est que je suis plus entraînée. Ton ami est ravissant, Abel. Tu devrais l'amener quand tu viendras nous voir.
Je ne viendrai pas, Cathy.
Je sais.
Voilà, c'est la scène finale de Nos plus belles années, The Way We Were, interprétée, bon là c'était en français, par Robert Redford et Barbara Streisand, un film de Sidney Pollack, un vrai mélo, Nathalie Azoulay, et c'est ce film-là qui sert de référence à votre héroïne. Vous aussi, vous l'avez vu 35 fois et à chaque fois, il vous fait pleurer autant ?
Non, j'ai dû le voir un peu moins, mais c'est vrai qu'il me fait souvent pleurer. Et en fait, c'est vrai que pour Claire Gantz, c'est un peu la scène contre laquelle elle veut travailler. C'est une scène qui donc met en présence deux personnages qui se sont follement aimés, qui n'ont pas pu vivre ensemble et qui se sont donc séparés et qui se retrouvent quelques années après. Et on voit dans cette scène comment il y a une vivacité quand même du sentiment. Ils se retrouvent avec beaucoup d'émotions, donc c'est vraiment très très bouleversant pour eux, très poignant. Mais comme le dit le personnage de Redford, il ne viendra pas. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas reprendre et chacun a refait sa vie de son côté. Et en fait, si elle veut travailler contre cette scène, c'est parce que cette scène dure 6 minutes. Et qu'on y voit donc deux amants, et en particulier une femme tout à fait transie encore d'amour, c'est-à-dire avec des yeux brillants, avec presque des trémolos dans la voix, des gestes fébriles, et une façon de s'avancer vers son ancien amant comme si elle allait le retrouver en fait, hein, c'est-à-dire elle traverse la rue en courant. Et cette scène, elle a beau l'avoir vue 35 fois, Claire Gantz, elle continue de l'agacer, c'est-à-dire qu'elle présente une manière de vivre l'amour qui est au désavantage de cette femme, de ce personnage féminin, qui a l'air de subir la situation et de ne pas du tout la décider, et donc de présenter à cet amant d'autrefois les signes d'un amour qui n'attend qu'une chose, c'est que ça recommence. Et donc Claire Gantz a pour idée que cette scène a été tournée par un homme, et que en général ces scènes sont tournées par des hommes, puisque en général le cinéma est fait par des hommes, et elle veut donc présenter avec Clic-Clac la première scène d'extinction du grand amour qui mettrait d'une certaine manière à égalité l'homme et la femme.
Bon, il y a ce film-là, puis il y en a deux autres qui arrivent derrière, hein, assez vite. D'abord, La fièvre dans le sang d'Elia Kazan avec Warren Beatty et Natalie Wood. Et puis il y en a donc un troisième qui surgit soudainement. Ce troisième, c'est Les parapluies de Cherbourg, Palme d'or, 1964. Là encore, la scène finale. Un extrait.
C'est la première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. J'ai été chercher la petite chez ma belle-mère en Anjou. J'allais rentrer à Paris, puis j'ai fait ce détour. Je ne pensais pas te rencontrer. Il a fallu ce bazar.
Est-ce que je fais le plat pour madame
Geneviève?
Oui, le plein.
Super ou ordinaire?
Peu importe.
Ben, c'est comme vous voudrez, super.
Oui. Il est joli cet arbre, c'est toi qui l'as décoré.
Non, c'est ma femme, enfin, c'est surtout pour le gosse.
Bien sûr.
Tu es en deuil.
Maman est morte à l'automne.
comment l'as-tu appelée ?
Françoise, elle a beaucoup de toi.
Voilà, scène finale donc des parapluies de Cherbourg. Vous écrivez, Nathalie Azoulay, une station-service à Cherbourg, Geneviève revoit Guy. Le nombre d'années écoulées depuis leur rupture n'est pas précisé, on compte sur ses doigts, 2 ou 3 ans. On s'embrouille, on cherche des indices dans le scénario, on aimerait être exact, comme si ça comptait. Non, ce qui compte c'est seulement d'y revenir suffisamment longtemps après pour voir, de franchir un creux, une douve, un gouffre, de buter sur un accident du relief, d'observer se précipiter de sentiments et de temps. Qui a quitté qui ? Ce n'est pas clair, mais disons que c'est plutôt Geneviève qui a quitté Guy. Dans les 3 temps où vous faites référence à ces 3 films, votre écriture est la même. C'est-à-dire que ces 3 scènes des films sont écrites sur le même modèle. Pour créer quel effet, Nathalie Azoulay ?
En fait, Claire Gantz découvre qu'elle avait une scène en tête, mais que cette scène en contient 2 autres. Et donc c'est une cascade de références qui se déverse sur elle, qu'elle n'avait pas prévue, et qui en fait lui montre que il y a une scène dans le cinéma, qu'il soit français ou américain, qui est toujours la même et qui a sans doute été vue par le dernier metteur en scène en question, c'est-à-dire Sidney Pollack, qui a dû voir le film de Demy, lequel a dû voir le film de Kazan. Et puisqu'on sait bien que le cinéma, comme tous les autres arts, retravaille ce qui a précédé.
Donc il a raison au début, dans la scène que vous nous avez lue au tout début, Nathalie Azoulay, l'acteur, de lui dire « mais ça s'est pas déjà fait cette scène ?»
Ouais, mais il n'est pas très précis à ce moment-là, donc c'est vrai qu'il ne lui indique aucune référence particulière. Mais c'est lui qui, une fois qu'elle lui aura montré la scène de Nos plus belles années, va lui dire « mais ça me fait penser à La fièvre dans le sang d'il y a 15 ans ». Et à partir de là, Claire Gantz va se mettre un peu en alerte et elle va constater par exemple qu'il y a toujours une voiture noire dans cette scène, et la voiture noire du film d'Elia Kazan va lui faire penser à la voiture noire de Catherine Deneuve dans Les parapluies de Cherbourg. Et donc il y a comme ça une façon de découvrir des poupées russes qui sont un peu les poupées russes de la création et qui donc la mettent face à cette réalité qui est que il y a peut-être une scène comme ça un peu archétypale qui fait partie du cinéma et qui fait partie de la vie, et qu'il faut interroger.
C'est les coulisses, les poupées russes de la création d'un film à travers la fabrique d'un film, mais aussi à travers la fabrique de votre propre livre, puisqu'au fond, Nathalie Azoulay, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de sujets qui ressortent de ce clic-clac. C'est un film sur la fin d'un amour tel qu'il est écrit ou tel qu'il est filmé dans les références de films que vous nous citez, mais c'est aussi un livre sur la naissance d'une relation. On ne dira pas laquelle, mais il y a une relation qui naît dans ce livre. C'est le livre d'une mère avec sa fille, puisque la mère est disparue il y a très peu de temps. C'est l'histoire d'un transfuge social aussi. Cette femme, Claire Gantz, vous nous disiez, elle veut tourner un film pour conjurer le mélodrame qui la faisait pleurer à 15 ans, et surtout qui faisait pleurer sa mère. Mais en fait, elle n'y arrive pas. Et elle finit par tourner un mélo comme si... Ben finalement, les émotions, c'est l'éloge de l'émotion. L'émotion doit revenir. Oui, on peut céder à la sentimentalité contre le snobisme d'un certain milieu. Et c'est pour ça que c'est aussi l'histoire d'un transfuge social, non ?
Absolument, c'est-à-dire que c'est une cinéaste qui est connue pour faire un cinéma plutôt élitiste, plutôt non sentimental, et qui, à l'occasion de la mort de sa mère, s'interroge en fait sur cette façon de travailler, sur cette manière qu'elle a eue de retenir l'émotion durant sa carrière et de se dresser un peu contre le sentiment. Et donc à l'occasion de ce deuil, évidemment, il y a des vannes qui craquent et qui libèrent des flots de sentimentalité qui étaient contenus, qui étaient interdits. Et c'est vrai qu'à l'origine, elle veut faire un film sec et rapide, c'est-à-dire clic-clac. Je ne vais pas déflorer la fin, mais c'est vrai qu'elle ne va pas y arriver et qu'elle va renouer avec le fil de sa généalogie et avec avec l'histoire de sa mère par un film qui est a priori tout ce qu'elle n'aime pas.
Il y a 2 choses qu'on retrouve de votre œuvre, de votre art, hein, Nathalie Azoulay. Je pense notamment à votre livre Titus n'aimait pas Bérénice, où l'héroïne relisait Bérénice de Racine après une rupture amoureuse, en s'appuyant donc sur une œuvre d'art pour sa vie à elle. Vous disiez tout à l'heure, d'une certaine façon, elle doit filmer contre d'autres films. peut-être écrivez-vous aussi contre des livres, mais aussi avec d'autres livres, avec d'autres œuvres d'art. C'est une façon de nous parler de la façon dont vous écrivez-vous, avec et contre les références du passé.
Oui, sans doute. C'est-à-dire que à la fois quand j'explore des processus créatifs comme ici celui de cette cinéaste, j'explore aussi le mien. Donc je vois comment ça se passe, je regarde, j'observe et je montre. Et c'est vrai que j'ai pour habitude et pour façon de vivre, hein, c'est pas uniquement dans mon travail, de vivre au milieu de références, d'y réfléchir, de voir comment on les fait évoluer, comment on les détourne, comment on travaille contre aussi. Donc je crois que c'est ma manière d'être.
Et tenir la ligne de crête entre le sentimental et le cérébral, c'est votre travail, c'est votre art?
Oui, je crois que... mais je dois pas être la seule à être comme ça, mais qu'on est toujours comme ça un peu polarisé entre une vivacité sentimentale et une exigence intellectuelle, et qu'on essaye de faire toujours gagner la rationalité, la raison, la construction, la composition, et que l'émotion vient s'immiscer à l'intérieur de cette composition. Et c'était pour moi aussi l'occasion de réfléchir à la fois à cette opposition, mais aussi à ce que c'est que le grand public et ce qui n'est pas le grand public. Et je crois que quand on travaille comme ça dans la création, on ne peut pas mettre dans un coin la question du grand public. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et on se pose toujours donc cette question de est-ce qu'on va travailler pour un petit nombre ou pour un grand nombre, et qu'est-ce que ça implique. Et donc, c'était pour moi, peut-être sans doute à ce moment-là de ma vie, une manière de regarder cette question-là.
Et puis, à côté de cette question du grand public, vous l'évoquiez tout à l'heure, la question des rapports hommes-femmes à travers, en l'occurrence, des actrices avec des réalisateurs dans les films référents, disons, qu'on a cités tout à l'heure, et puis d'une metteur en scène avec son acteur dans le cas de votre héroïne. Mais en l'occurrence, ce sont les femmes, ce sont les actrices qui parlent, qui regimbent, qui rechignent, qui réécrivent, que vous faites parler dans, que ce soit Deneuve, que ce soit Barbara Streisand, que ce soit Natalie Wood, et vous écrivez, je fais ce film, enfin, c'est ce que dit votre héroïne, je fais ce film contre comme un cri de guerre pour qu'on cesse de nous vendre des générations de filles transi. Il y aurait une dimension féministe aussi à cet ouvrage, Clic-Clac?
Oui, un petit peu, parce que le cinéma a été fait quand même majoritairement par des hommes. Il y a quelques réalisatrices qui l'ont fait aussi et qui continuent à le faire, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des implications à cette donnée-là. Et donc, je me suis donné la liberté, moi, de faire parler toutes ces actrices absolument vedettes et stars, et d'ouvrir un espace narratif qui est celui du making of, où j'ai imaginé donc qu'elles discutaient les indications de jeu de leur metteur en scène, ce qui n'a pas dû arriver. Mais je me suis bien amusée à imaginer comment Streisand et Deneuve et Natalie Wood pouvaient s'opposer à des monstres comme Sidney Pollack, Jacques Demy ou Elia Kazan. Et c'était une manière pour moi de justement remettre en jeu la question de l'égalité dans l'amour, parce que c'est une vraie question.
Et pourquoi la vitesse? C'est non seulement elle qui veut, Claire, qui veut faire un film qui va vite, qui claque, cut, hein, comme on disait, mais c'est aussi un livre, le vôtre, non seulement parce qu'il est assez court, mais aussi parce que je pense que le champ sémantique de la vitesse est celui qui revient le plus. Tout va vite, ça va vite, c'est court, c'est bref, ça claque.
Oui, parce que la vitesse, c'était pour Claire Gantz une manière justement de contrer les penchements et de contrer les fusions sentimentales. Et donc, quand on déplie, on replie, on n'a pas le temps de s'épancher, on n'a pas le temps d'avoir des larmes qui montent, on n'a pas le temps que la voix chevrotte, etc. Donc, la vitesse, c'était un choix esthétique pour justement contrer ça. Et évidemment, l'évolution du livre et du film montre que cette vitesse est impossible à tenir.
Et chez nous aussi, c'est difficile à tenir. Nous, c'est plutôt une question de temps, de timing. Il est déjà 7h30 sur France Culture, mais restez avec nous, Nathalie Azoulay. On vous retrouve d'ici 2 minutes, juste après le rappel des titres de l'actualité. On retrouve notre invitée, la romancière Nathalie Azoulay, qui publie Clic-Clac chez POL, mais qui publie non seulement Clic-Clac chez POL, mais un deuxième texte en même temps, En découdre. Ça, c'est le titre de ce deuxième livre paru simultanément. En découdre, c'est quoi, le petit cousin de Clic-Clac, Nathalie Azoulay, où il n'y a aucun rapport, selon, pour vous, entre les deux textes?
Si, c'est un petit cousin, mais c'est un cousin qui a dû naître avant et qui est né avant, de fait, puisque c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas créatrice, mais qui aime la création et qui donc visite un musée quotidiennement, un musée de peinture, et qui à la fois regarde les tableaux, mais aussi regarde le gardien de ce musée, et qui va donc entamer une forme de dialogue intérieur avec lui, puisque en fait c'est un monologue, donc il ne lui répond pas, sur le thème de qu'est-ce qu'être un gardien de musée, qu'est-ce que tenir cette position dans le monde, et comment un gardien de musée entretient-il un rapport avec ce qu'il garde, c'est-à-dire avec l'art. Et donc c'est l'occasion pour elle revenir sur son propre parcours, sur sa propre ascension sociale, sur sa propre ambition, et de la mettre en regard avec ce qu'elle considère comme la non-ambition de ce gardien, dont elle ne sait rien, hein, qu'elle ne fait qu'imaginer. Et donc c'est en cela... je dirais une cousine de Claire Gantz, mais une cousine qui n'aurait pas créé, ce qui fait que sa manière de regarder les choses est beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente, beaucoup moins apaisée et réconciliée. Je pense que la création de Claire Gantz, même si elle provoque du ressentiment, de la violence aussi, est une manière d'apaisement. Et la création donne ça. Et donc, comme elle est en position d'amateur d'art et non pas de créateur d'art, cette héroïne qui n'a pas de nom en découdre est une femme beaucoup plus à vif.
Elle évolue, hein, en même temps.
Elle évolue.
C'est un très, très court texte. Celui-là, il fait 90 pages.
Mais c'est un texte que j'ai écrit pour le théâtre et qui sera joué l'année prochaine. Et qui donc a en lui une violence verbale, orale et une projection de voix qui est tout à fait différente du roman.
Oui, au début, elle est très dure avec le gardien de musée. Alors, il faut dire que c'est pas n'importe quel musée. C'est un musée de province où il ne vient jamais personne sauf cette femme qui vient quotidiennement admirer les œuvres et donc regarder le gardien de musée tous les jours. Mais au fur et à mesure, elle se livre, elle dévoile qu'elle est mal à l'aise dans ce monde social-là, et on retrouve donc le thème que vous avez évoqué, le thème de l'ascension sociale et cette question de la transfuge sociale qui est là aussi votre héroïne. Est-ce que d'une certaine façon, on pourrait dire, Nathalie Azoulay, que là où il y a cousinage entre vos deux textes, il y a aussi un lien, même si vous ne l'avez pas sans doute voulu comme tel, avec un climat social du moment, un climat social que l'on vit en permanence et qui peut-être soit propice à l'écriture, soit au contraire qui tarit l'inspiration tellement il est difficile d'en rendre compte. Comment vous situez-vous aujourd'hui en tant qu'écrivaine ? Êtes-vous inspirée ou bloquée par ce qui se passe ?
Non, je crois que la situation du transfuge, elle est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais elle est de toute éternité, c'est-à-dire elle n'est pas tellement reliée au climat actuel. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de décrire cette manière de venir d'un monde, d'arriver dans un autre et finalement de tanguer entre les deux, de n'être bien nulle part et d'avoir à la fois une énorme reconnaissance pour le parcours fait, une énorme satisfaction et en même temps une douleur qui travaille, une culpabilité sociale et l'impossibilité finalement de se stabiliser. Je pense que c'est une situation qui existe depuis toujours, qui existera toujours. Et parce que la société est faite de plusieurs mondes.
La question, effectivement, de l'ascension sociale existe depuis toujours. La question que je vous posais était peut-être un peu plus large que celle-ci. C'est compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, et effectivement, il y a des résonances en permanence entre ce que vous écrivez et ce que nous vivons. Est-ce que vous arrivez en tant qu'écrivain à vous mettre à distance ou au contraire, vous cherchez à être dans votre monde ? Comment vous vous situez ? Comment vous vous placez par rapport à ce qui se passe ? Et là, je m'éloigne de clic-clac et de en découdre. Hein.
Non, il est évident que je suis traversée par ce qui se passe. Je suis de mon temps et dans mon temps, donc ça m'affecte, ça me fait réfléchir. Et en même temps, vous savez, quand on travaille, enfin moi, ça fait longtemps que j'écris, je crois que je suis quand même rivée à mes configurations à moi et à mes parcours à moi. Et donc, ça vient percuter, l'actualité vient percuter mes propres scènes. Mais je crois que ce qui me fait écrire, c'est quand même toujours mes scènes d'origine. Et donc, je me déplace légèrement en fonction de l'histoire actuelle. Mais ce sont des déplacements qui sont plutôt légers et ténus.
Allez, comment on finit avec la scène de début d'une certaine façon, ce que vous avez fait avec Clic-Clac qui commence par une scène finale. On va terminer avec la chanson qui revient forcément tout au long de votre Clic-Clac, Nathalie Azoulay. Je t'attendrai toute ma vie. Musique de Michel Legrand dans le film de Jacques Demy dont on a parlé, Les Parapluies de Cherbourg. Michel Legrand d'ailleurs qu'on peut voir en photo dans une exposition en ce moment à la Maison de la Radio.
Je ne penserai qu'à toi.
Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Reste mon amour, ce n'est pas encore l'heure.
Je m'éloigne de toi, ne me regarde pas.
Sur la musique grandiloquente, je vous remercie. Nathalie Azoulay, Clic-Clac et En Découdre, ce sont donc vos deux livres parus chez POL. Vous me dites déjà au revoir, vous êtes déjà debout, vous êtes déjà en train de sortir. C'est vraiment un au revoir mise en scène. Là. Les auditeurs ne le voient pas, mais je le décris avec ma main. Allez, il est 7h40 sur France Culture. Et tout de suite, c'est La Fabrique médiatique.